Merci d'être avec nous sur France Culture. Voici l'Esprit Public, un autre regard sur l'actualité de la semaine avec nos visiteurs du dimanche. Aujourd'hui, l'ancienne eurodéputée et actuelle sous-gouverneur de la Banque de France, Sylvie Goulard, l'économiste Daniel Cohen, le philosophe François-Xavier Bellamy et le directeur général du think tank Terra Nova, Thierry Pêche. Au sommaire de ce dimanche, France, comment refaire nation ? Et puis Union européenne, Grande-Bretagne, si tu reviens, j'annule tout. Strasbourg, le marché de Noël et l'attentat, l'habituelle sidération, figeant d'un coup cette France chaotique des gilets jaunes que l'on voyait depuis plusieurs semaines. Assez vite, ce tweet présidentiel, solidarité de la nation tout entière pour Strasbourg, nos victimes et leurs familles. La nation tout entière, écrivait le président, mais la France savait-elle encore faire nation ? La nation tout entière n'était pas restée très longtemps une et indivisible, les rumeurs de complotisme allant bon train sur les réseaux sociaux, sur le thème de l'attentat coup monté pour dissoudre le mouvement des Gilets jaunes. Le poison du complotisme, le poison de la nation profondément et durablement divisée qui inquiétait au plus haut niveau de l'État. Lundi soir, dans ce discours qui s'était fait tellement attendre, le président, en plus des annonces faites en faveur du pouvoir d'achat, n'avait au fond parlé que de cela. De ce pays fragmenté, territoire contre ville, élite contre peuple, médias traditionnels contre réseaux sociaux. France fragmentée, à qui le président voulait proposer un débat sans précédent, un nouveau contrat pour la nation. En attendant samedi, moitié moins de gilets jaunes dans toute la France, un peu plus de 2000 dans la capitale. L'attente de la grande consultation nationale annoncée par le président et cet appel ce matin dans le journal du dimanche de l'Association des maires ruraux a continué de faire vivre le débat dans les territoires, dans cette France des ronds-points dont avait si bien parlé Florence Aubenas dans Le Monde du week-end. Enfin, cette semaine, il y aurait eu quand même ce moment, cette séquence appréciable de convergence démocratique dans l'hémicycle de l'Assemblée jeudi. La gauche, inhabituellement unie pour déposer une motion de censure contre le gouvernement, et un gouvernement semblant apprécier, ce qui n'avait pas toujours été le cas, que le débat parlementaire, fût-il une motion de censure, puisse avoir lieu dans les meilleurs délais. Comme si après des semaines où le débat ne s'exerçait plus que de façon anarchique, de revendications contradictoires en défouloir, dans la rue ou sur la toile, ce fameux débat contradictoire si français et tellement indispensable revenait enfin là d'où il ne devait jamais partir, dans le giron de la République.
Comme vous le savez, le principal pour qu'on ne se divise pas et que l'assassin n'ait pas le dernier mot, c'est que la vie continue. La vie démocratique d'abord. Vous le savez, une motion de censure a été déposée. Mais je vous dis, monsieur le Premier ministre, que ce matin, nous avons saisi le président de notre Assemblée pour lui dire que si pour des raisons opérationnelles qui lui appartiendraient ou à votre demande, il faisait un report, nous n'en ferions pas un drame. Mais nous croyons utile que cette motion de censure puisse être développée de manière à ce que l'assassin et les assassins d'une manière générale sachent qu'ils n'ont aucune prise sur la vie démocratique.
Je veux dire, Monsieur le Président Mélenchon, que le Premier ministre, le gouvernement, est à la disposition de l'Assemblée. Et ce débat aura lieu quand l'Assemblée le souhaitera. Quand l'Assemblée le souhaitera. Et il aura lieu. Et il aura lieu pleinement et nous pourrons exprimer nos désaccords. Et nous pourrons exprimer nos désaccords parce que fondamentalement, Monsieur le Président Mélenchon, nous sommes d'accord pour défendre la République et pour défendre la démocratie.
Thierry Pêche, à l'issue de cette semaine, on se pose cette question. Savons-nous, saurons-nous refaire nation et surtout, comment Emmanuel Macron va reprendre le fil de ce quinquennat ?
Avant de refaire nation, il faut refaire société. Faut pas croire qu'il suffirait de manipuler les grands symboles d'unité nationale pour sortir de l'ornière où on se trouve. Et puis vous savez, les foules assemblées sur les ronds-points n'ont pas besoin des élus pour chanter la Marseillaise et brandir les drapeaux. Donc la question n'est pas d'abord nationale, elle est d'abord sociale. Et je crois que c'est ça qu'on a du mal à analyser, parce qu'au fond on ne sait pas trop à qui on a affaire. Chacun y va de son interprétation, vit sa révolte par procuration. Mais au fond, on n'a pas de base empirique très solide pour parler de ça. Ce qu'on voit en revanche, c'est que le mouvement est en résonance avec une crise qui est centrale aujourd'hui, qui est la crise vraiment du centre de la société française. Je crois que c'est ça qui est le plus préoccupant. Au fond, les classes moyennes inférieures françaises, et plus encore leur philosophie sociale, celle qu'elles ont portée pendant des années, c'est-à-dire l'idée que le travail, le mérite, l'épargne sont au cœur d'une vie réussie, la consommation, bon, ces catégories doutent aujourd'hui des valeurs qu'elles ont portées et dont on a accompagné le développement. Le travail est incertain, le mérite... Beaucoup de milieux, beaucoup de familles, des classes moyennes ou des classes populaires stables, intégrées dans l'emploi, doutent du rendement des études qu'elles font faire à leurs enfants. L'épargne, on a eu l'occasion d'en parler ici, mais les actifs que possèdent ces catégories, c'est-à-dire singulièrement la maison, l'appartement, parce que souvent elles sont devenues propriétaires, ou le véhicule, qui est souvent un diesel, en fait, quand vous sortez des grandes aires urbaines ou des grands cœurs d'agglomération, ces actifs se sont dépréciés. Légèrement, mais ils se sont dépréciés. Et donc, il y a beaucoup de raisons aujourd'hui. Alors tout ça, évidemment, a pour conséquence que des frustrations dans les pratiques de consommation. Tout ça crée un malaise dans le cœur de la société. La question sociale ne se pose pas par le bas, elle se pose par le cœur. Et c'est ça qui la rend extrêmement dangereuse aujourd'hui pour l'équilibre même institutionnel du pays. On sort quand même d'une ambiance quasi pré-insurrectionnelle. C'est presque touchant d'entendre Jean-Luc Mélenchon plaider pour la paix démocratique après avoir été un de ceux qui appelait le plus fort à une forme d'insurrection et de manière pas seulement subliminale. Hein. Donc je crois qu'on est... On est dans une situation vraiment très très délicate, très très dangereuse. Moi, je fais l'hypothèse aujourd'hui qu'on est peut-être au seuil d'une révolte des classes moyennes françaises. Pas au sens de l'INSEE, pas les professions intermédiaires, hein, au sens, disons, le milieu de la distribution, là, le milieu un peu moins et le milieu
Qu'est-ce
plus
que ça 10%. Veut dire une révolte ?
Alors, on ne sait pas, parce que ça ne s'est jamais produit, sinon dans les années 30.
Mais à quoi,
dans
pensez-vous, les 30, à quoi pensez-vous précisément
pas forcément en France, mais dans les années 20 et 30 en Allemagne, par exemple, les classes moyennes ont vraiment ripé vers le fascisme. Bon, en France, je ne sais pas ce que ça peut donner aujourd'hui. Personne ne peut écrire l'histoire avant qu'elle ait lieu. Je disais à Daniel Cohen, avant qu'on commence cette émission, que j'avais le souvenir d'un roman que j'avais lu il y a une dizaine d'années, un roman de James Ballard. Millennium People. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce roman. C'est un roman dans lequel James Ballard est un auteur de science-fiction a priori, mais là, il ne racontait pas de la science-fiction. Et donc, il proposait une fiction dans laquelle les classes moyennes britanniques se soulevaient sur une question fiscale, hein, sur un ras-le-bol fiscal. Mais en même temps, leur soulèvement avait un caractère de défouloir. Bon. Et en même temps, il y avait des attentats terroristes à Heathrow. Vous voyez, cette l'ambiance du roman racontait quelque chose comme un soulèvement des classes moyennes. Alors là, c'était les classes moyennes qui allaient un peu mieux. Hein. C'était les classes moyennes de Chelsea. C'était pas ce qu'on voit sur les ronds-points français aujourd'hui. Personne peut dire, mais il y a une grande fatigue de la philosophie sociale des classes moyennes aujourd'hui en France. Et je pense que il faut se souvenir que cette philosophie sociale dans les années 60-70, elle a été l'alternative à une philosophie de confrontation de classes. Donc, si ces gens qui ont été ceux qui toujours ont joué avec décident de jouer contre, ils mettent en danger ce qui fait qu'on a fait société ensemble, cette société salariale, pendant des décennies. Je crois que c'est ça qui est dangereux. Ça n'est qu'une hypothèse, et encore une fois, il faut être très modeste, parce que notre capacité à analyser sociologiquement ce mouvement, elle est en réalité très faible.
Refaire nation, ou surtout refaire société, disait à l'instant Thierry Pech, Daniel Cohen, face à cette exigence-là et face à ce doute, ce désarroi, cette dépression française que l'on vient d'analyser, est-ce que vous avez trouvé que le discours présidentiel tellement attendu et qui s'est peut-être d'ailleurs trop fait attendre lundi soir était à la hauteur ?
Je crois qu'il a été à la hauteur d'une attente qui était celle du pouvoir d'achat. Bon, faut voir si ça va percoler les conditions de mise en œuvre et tout ça. Bon, mais cette mobilisation s'est faite autour d'un thème qui lui-même agrégeait beaucoup de colères diverses et variées. Mais cette taxe sur les carburants n'est pas supportable. On ne va pas refaire tout le film. Il y avait en effet une absurdité de la politique économique qui consistait à augmenter les taxes sur le carburant au moment même où le prix du carburant explosait. Il y a quelque chose comme un aveuglement qui a autant agacé, je crois, les gens, cet aveuglement à la réalité de leurs conditions matérielles. Augmenter une taxe sur un produit cher, il faut être fou. Et il n'y a aucun argument écologique qui le justifiera jamais, parce que que si le prix du carbone augmente tout seul, on va pas rajouter une couche dessus. On attend au contraire que ça baisse pour augmenter la taxe, pour mettre une espèce de plancher. Je refais pas toute la démonstration, mais donc, il y avait cette catalyse sur la question du pouvoir d'achat qui, elle, a été, bon, mise en œuvre, mise en scène, les 100 euros, la CSG, les exonérations de charges et d'impôts sur les heures supplémentaires. Bon, c'est un ensemble de choses qui étaient à peu près au centre de gravité des attentes en ce domaine-là. Maintenant, en effet, ce qui est né aussi, c'est quelque chose de plus, et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Cette chose de plus, je suis tout à fait ce que disait Thierry à l'instant, j'avais la même formule en tête, il ne s'agit pas de faire nation, il s'agit de refaire société. Une société, c'est-à-dire un ensemble dans lequel on accepte que, à l'intérieur, il y ait des conflits contradictoires qui s'expriment, qui sont légitimes. La nation, ce qui est embêtant, c'est qu'il y a toujours besoin d'un ennemi à la nation pour être sûr de comprendre ce qu'elle est vraiment. L'ennemi, ça peut être, on avait déjà eu cette discussion d'ailleurs avec François-Xavier au moment du 11 novembre, donc on peut la relancer à cette occasion-là, mais il y a besoin du Bosch, il y a besoin de l'immigré, il y a besoin de l'émigré. Il y a toujours besoin d'une figure qui permet de comprendre ce qu'est la nation par opposition à ce qu'elle n'est pas. Ce qui est toujours un tout petit peu compliqué en temps de paix. Par contre, la société, en effet, elle doit accepter qu'elle est traversée en son propre sein. C'est elle son propre ennemi, entre guillemets. Sauf que ça n'est plus un ennemi puisque c'est elle-même. Elle est traversée par des pulsions contradictoires qu'il faut résoudre socialement, démocratiquement, politiquement. Voilà, c'est ça qu'il faut accepter. L'idée que tout d'un coup, on n'est plus qu'un seul peuple parce qu'en effet, un abruti tire à la mitraillette. Je pense que c'est un peu fragile comme figure de la nation qu'on veut reconstituer. C'était dans ce cadre-là que Mélenchon avait fait son intervention. Donc il faut accepter qu'on ait une société complexe. Or, cette complexité, elle n'est plus intelligible. Dans les sociétés traditionnelles que le monde industriel a portées, il y a des classes sociales, il y a des ouvriers avec des syndicats, il y a des ingénieurs avec leur club d'ingénieurs, il y a des patrons, etc. Tout ça est assez visible et chacun sait qu'il a des ressources politiques, sociales, syndicales qui permettent d'exprimer une attente. On vit dans un monde où tout ça est pulvérisé. Pour refaire d'ailleurs le lien, sans retourner au point de Goodwin avec les années 30, Hannah Arendt disait très bien dans son analyse de la montée du totalitarisme, on est passé d'une société de classe où chacun comprend son intérêt et est capable de l'opposer à celui des autres, à une société de masse. Une société de masse, disait-elle, c'est des individus isolés qui n'ont plus la conscience collective de leur souffrance individuelle. Eh bien, ce mouvement, d'une certaine manière, autour des ronds-points, etc., il a redonné à la souffrance individuelle de chacun une dimension collective. Tiens, on a le même problème. On a du mal à aller de l'endroit A à l'endroit B, à finir nos fins de mois. Donc, bon, le pouvoir d'achat a été l'agrégateur, mais encore une fois, je pense que c'est plus profond que ça. C'est une société qui, tout d'un coup, comprend qu'en son propre sein, elle génère des souffrances individuelles qui sont collectives. Ouais. Et ça, pour Emmanuel Macron, ça va être plus dur. Juste pour terminer là-dessus, Macron a été élu par les réseaux sociaux. Il est battu par les réseaux sociaux. C'est la même chose. Les réseaux sociaux sont l'agrégateur de cette société de masse, comme la radio avait pu l'être pour la société des années 30. Donc il y a quelque chose de profondément nouveau à quoi il va falloir qu'il donne une réponse aussi.
Sylvie Goulard, comment avez-vous regardé en effet le fil des événements cette semaine? Daniel Cohen évoquait à l'instant cette France des ronds-points. Je citais tout à l'heure Florence Aubena car elle a très bien rendu compte de ce qui s'est passé ces dernières semaines sur ces ronds-points de France. Et il y a notamment ce témoignage qu'elle retranscrit de cette mère célibataire qui raconte que depuis qu'il y a cette mobilisation des Gilets jaunes, elle ne reste plus seule chez elle avec sa fille, qu'elle ne regarde plus les dessins animés, qu'elle regarde les informations, ce qu'elle ne faisait plus depuis des années parce que justement il y a une sorte de nouvelle prise directe avec le réel hexagone. Comment est-ce qu'on répond à cette envie de débattre, de participer? Est-ce que vous avez trouvé que la réponse présidentielle était à la hauteur?
Bonjour. Pour ma part, je voudrais faire une remarque un peu différente. C'est-à-dire que je me suis occupée pendant 8 années au Parlement européen de lutte contre la pauvreté avec ATD Quart-Monde. On a fait énormément d'actions et donc j'ai parfaitement conscience de ce qui se passe dans la société et aussi peut-être de l'indifférence qu'il y a pu y avoir. Y compris dans la manière dont sont faites nos statistiques. Vous citez une femme avec un enfant. Moi, je n'ai jamais supporté la rubrique famille monoparentale. Il faut mettre un nom sur les choses. Vous avez des femmes qui sont abandonnées avec des enfants petits et qui se débrouillent comme elles peuvent. Donc, quand on appelle ça dans les statistiques famille monoparentale, on est à la limite, je dirais, de la désinformation. Mais au-delà de tout ça, moi, je voudrais qu'on essaie de se tourner quand même un peu vers les solutions et qu'on rappelle, Daniel Coel vient de rappeler la complexité du sujet, il y en a une supplémentaire, c'est que le débat économique et social se fait alors que la France appartient à l'Union européenne. Au sein de l'Union européenne, un certain nombre de choix ont été faits collectivement. Par exemple, le choix de faire l'euro avec une monnaie qui est gérée de manière centralisée, mais des politiques économiques et sociales qui sont décentralisées, qui sont dans les mains des États. Et quand on compare la situation de différents pays de la zone euro en ce moment, on est un peu effaré pour la France, parce qu'on voit qu'il y a des pays dans lesquels il y a le plein emploi, dans lequel il y a même des tensions à la hausse sur les salaires parce que les entreprises recrutent et ont du mal à recruter. Donc je crois qu'effectivement, le temps est venu de remettre à plat un certain nombre de choses qui peuvent être des erreurs au niveau européen, mais qui sont aussi sûrement des problèmes au niveau national. Et un certain nombre des réformes qui ont été conduites par le président de la République et son gouvernement, comme par exemple la réforme de la formation professionnelle, est extrêmement importante. Chacun sait que les personnes ne peuvent pas retrouver du travail après une perte d'emploi si elles ne sont pas équipées pour ça, accompagnées. Donc je crois qu'il faut essayer de voir ce qui marche un peu mieux ailleurs. Ne pas être uniquement dans un discours, je dirais, de désespoir. Il faut être extrêmement lucide sur les souffrances individuelles. Et malgré tout, essayer de prôner des solutions qui vont véritablement aider les gens et faire sortir la France de problèmes qu'elle a de manière durable, comme le problème de l'emploi. Si nous n'arrivons pas à nous attaquer au problème de l'emploi, je reviens sur ce qu'a dit Thierry Pêche, il n'y aura pas cette adhésion des classes moyennes à l'idée que le travail est reconnu, que les études valent la peine, etc. Donc c'est extrêmement difficile, hein, j'en ai bien conscience. Il ne faut pas dire qu'il n'y a qu'à Faucon, ce sont probablement des actions de moyen et long terme, mais il faut s'y mettre et rétablir de l'égalité de perspective et de l'égalité de chance où que les gens soient sur le territoire national.
Mener des politiques ambitieuses pour l'emploi, et puis il y a aussi eu ces annonces pour le pouvoir d'achat, François-Xavier Bellamy, et puis il y a tout ce qu'on nous annonce justement pour refaire participer, refaire nation, refaire société, avec notamment ce grand débat qui est prévu sous l'égide de la CNDP, c'est-à-dire la Commission nationale pour le débat public. Il y a par ailleurs ces cahiers de doléances qui ont été déposés chez les maires, ces maires ruraux qui s'expriment ce matin dans le journal du dimanche. Est-ce que tout cela, ça permet justement de reprendre le fil de notre histoire politique ?
Il le faut, mais ce sera difficile et ce sera certainement une tâche de long terme, parce que ce qui est très frappant dans cette crise, c'est que la difficulté qui nous attend est celle de refaire société, mais simultanément de refaire, disons, cité, c'est-à-dire de reconstruire à partir de ces désaccords qui existent entre les différentes catégories sociales et entre les différentes sensibilités politiques, de reconstruire quelque chose comme un dialogue et non pas comme un affrontement. La politique suppose que ces désaccords, et c'est un miracle toujours fragile, soient l'occasion d'un débat et non pas d'un combat. Et là, on a vu qu'on était sur le point de basculer pour une raison qui est très profonde et qui est le discrédit incroyable qui pèse sur le fonctionnement même de la représentation. C'est ce qui m'aura le plus frappé dans cette crise des Gilets jaunes, c'est l'incapacité qu'ils ont eue à désigner eux-mêmes des représentants ou à laisser même émerger des représentants qui, dès lors qu'ils étaient conduits à entrer dans une discussion, se trouvaient menacés de mort, non pas par leurs opposants, mais par leur propre base. C'est-à-dire que là, nous sommes devant une forme de... Combien de déceptions, combien de trahisons a-t-il fallu accumuler pour que l'idée même d'une représentation soit discréditée à ce point ? Tous ceux qui se présentent comme des représentants sont à moyen terme des traîtres. En fait, c'est ça qu'a voulu dire cette crise. Et là, ça nous interroge bien sûr sur l'avenir de notre débat politique. Alors, évidemment, dans les réponses qu'il faut apporter, il y a des réponses très concrètes et il était absolument indéniable qu'il fallait que le président annonce quelques mesures concrètes pour pouvoir justement recréer la confiance minimale nécessaire à la restauration d'un dialogue. On ne pouvait pas s'en tenir seulement à la promesse d'un dialogue, il fallait encore qu'il soit précédé de changements significatifs. Maintenant, c'est aussi tout aussi évident que ces changements en tant que tels ne suffiront pas parce que, vous l'avez dit, nous sommes devant la nécessité de réformer en profondeur le modèle dans lequel nous sommes. Je suis très frappé de voir à quel point, au fond, nous empilons des primes sur des primes, alors que dans ce débat, il y a le désir de pouvoir gagner sa vie par son travail et de pouvoir gagner sa liberté par son travail, et non pas par des aides supplémentaires qui viendraient de l'État. Et il me semble qu'on ferait fausse route en voulant continuer de multiplier des dispositifs de primes ou d'accompagnement ou d'aide, là où en fait ce qui est demandé c'est simplement de pouvoir reconquérir une forme de liberté. C'est la question aussi de la liberté qui est au cœur de la...
Dans ces 10 milliards d'euros annoncés par le président de la République, il fallait ça aussi pour apaiser ce mouvement d'une très grande violence dont parlait tout à l'heure Thierry Pêche.
Dans l'immédiat, sans aucun doute, il fallait en tous les cas faire un geste, il fallait évidemment revenir sur la surtaxation qui pesait sur les carburants, il fallait de toute évidence pouvoir redonner des perspectives et un peu de encore une fois, de réponses consistantes. Mais ce que je crois, c'est qu'encore une fois, la question du travail dont on a parlé est vraiment centrale, parce que ce à quoi nous avons affaire, ça n'est pas d'abord à une révolte de la pauvreté qui viendrait de l'absence d'emploi. Et, bien sûr, la question de l'emploi est une question décisive. Mais si la question de l'emploi est si difficile à résoudre en France, c'est parce qu'au fond, on a du mal à faire la différence quand on a décroché un emploi. Et il ne s'agit pas, bien sûr, de mépriser ou de négliger la question du chômage de masse. C'est une question fondamentale. Mais le sujet aussi, c'est de faire en sorte que dans notre pays, celui qui travaille puisse, par son travail, acquérir une forme de marge de manœuvre. Aujourd'hui, la question n'est pas tant la grande pauvreté, qui est un sujet majeur, que la question de cette révolte du centre dont parlait
Thierry Pech,
qui est politiquement très, très inquiétante, parce que c'est une question que nous n'avons pas eu l'habitude de prendre en charge, me semble-t-il, en tous les cas, dans le débat public au cours des dernières années.
Valoriser, aider cette société française du travail, Thierry Pech, est-ce que c'est ce qu'a voulu faire précisément Emmanuel Macron, c'est-à-dire sans revalorisation globale du SMIC, mais en donnant un coup de pouce à la prime d'activité pour les SMICA?
Je vais revenir à votre question, mais d'abord je voudrais faire observer ce que disait Daniel est très juste, c'est-à-dire que on a vu les souffrances commencer à se socialiser. J'avais déjà eu l'occasion de citer cette phrase de Robert Castel à ce même micro il y a quelques semaines, mais il disait toujours, et je crois que c'était très vrai, jamais le malheur des hommes n'a suffi à faire un problème social. Pour qu'une souffrance devienne un problème social, il faut qu'ils en parlent, il faut qu'ils partagent, il faut qu'ils socialisent, il faut qu'ils disent « ah oui, toi aussi ». Et toi aussi, t'arrives ça, moi aussi. Et moi, ce qui me frappe, si vous voulez, dans ce qui se passe sur les ronds-points, c'est que les milieux modestes, pour les avoir bien connus, je peux vous dire s'il y a une chose dont ils ont honte, c'est les petites difficultés de la vie. Quand ils cessent d'avoir honte, c'est qu'il s'est vraiment passé quelque chose. Vous savez, dans le papier de Florence Omna, il y a une remarque qui est très juste. Quelqu'un qui dit, je n'en parlais même pas avec mes amis. J'osais pas parler de mes difficultés avec mes amis. Et maintenant, j'en parle sur les ronds-points. Quand vous passez de la honte à la fierté, il s'enclenche quelque chose qui est irréversible. Qui est irréversible. Et ce qui a beaucoup manqué aux classes populaires du haut, celles qui sont dans l'emploi, pas les plus pauvres. Vous savez, dans le 93, il n'y a pas eu un seul blocage en Seine-Saint-Denis. On n'a pas vu, un pneu brûlé. Bon.
Pour quelle raison, selon vous ?
Bon, non, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que je n'ai pas avoir le temps de.
C'est intéressant.
Mais de fait, si vous regardez les cartes du 17 novembre, il n'y a pas un point de blocage dans le 93 parce que les problèmes de cette population-là ne sont pas du tout ceux qu'on vient d'évoquer. C'est la grande exclusion, c'est la grande pauvreté, la persistance dans la pauvreté, c'est les cités, etc. C'est autre chose, quoi. C'est la question sociale par le bas dont je parlais tout à l'heure. Non, mais.
Exclusion qui a eu, d'ailleurs, par ailleurs.
C'était pas mon point. Ce que je veux dire, c'est que quand.
Attention.
D'accord, on va y revenir.
Je donne la parole juste après.
Très bien. Non, mais bien sûr, il ne faut pas les oublier. Je suis tout à fait d'accord avec vous, on va en reparler. Mais quand on passe de la honte à la fierté, il se passe quelque chose d'irréversible. Et ce qu'il faut maintenant, c'est aider ces gens à trouver l'intelligence de leur colère pour entrer de façon constructive dans la délibération démocratique et pas à partir dans le décor ou continuer à tourner en rond sur des ronds-points. Donc ça, c'est très difficile. Maintenant, je vais revenir à ce que disait Sylvie. Elle a raison, il faut parler des solutions. Et tout ce que vous avez dit, Sylvie, sur la question de l'emploi et la formation est tout à fait juste. Oui. Moi, j'ai soutenu...
précisément à la fois sur le dispositif annoncé par Alain Dufort et par ces réformes dont parlait Sylvie
Goulard. On va y venir. Moi, j'ai soutenu la réforme de la formation professionnelle et continue. J'ai soutenu même les ordonnances travail. Tout ça, je trouve ça très bien. On peut avoir des discussions. Daniel hausse les sourcils, mais... Je comprends tout ça. Mais là, le président de la République est face à un mouvement qui porte plusieurs demandes, pas seulement le pouvoir d'achat. Il porte aussi une demande d'équité à laquelle il n'est pas répondu. Il porte aussi une demande démocratique à laquelle il n'est pas répondu. Ce qui est mort dans ce mouvement, c'est une formule que j'ai déjà utilisée, je m'en excuse, je la reprends, c'est pas Jupiter, c'est le jupitérisme. Cette façon verticale de gouverner d'en haut, en regardant les gens qui sont en bas, avec quand même un peu de mépris social. Je veux dire, les formules sont... Vous savez...
Brièvement, avant de donner la parole à Sylvie Goulard, pourquoi est-ce que vous considérez, justement, il n'a pas répondu à cette demande démocratique? C'est-à-dire que tout ce qui a été annoncé, la perspective de ce grand débat dont on attend, c'est vrai, de connaître les modalités, de toute façon, c'est en deçà de ce qu'il fallait faire?
Oui. Sincèrement, je pense que oui.
Je pense
qu'il y a des questions sérieuses qui se posent sur à la fois l'usage de nos institutions et ce qu'elles sont devenues. Moi, mon slogan sur les institutions, ce serait « Mais revenons vite à la Ve République », parce qu'on en est sorti. On est entré dans un truc qui n'a plus rien à voir avec les équilibres gaullistes originels, si vous voulez. Il n'y a plus de débat politique dans nos institutions. Nos institutions se sont anémiées.
On fait semblant au Parlement, parce qu'on parle en réalité d'une motion de censure qui est un gadget. On sait bien qu'elle ne débouchera sur rien. La majorité est très contente de maintenir le calendrier, parce que c'est très difficile de discuter d'une motion de censure alors qu'il y a eu un attentat terroriste. Tout ça, ce sont des petits calculs. La réalité, c'est qu'il n'y a plus de débat politique dans nos institutions.
Que fallait-il ? Qu'où faudrait-il faire
Je pense qu'il faut
répondre à cette exigence démocratique.
Il faut faire des propositions sur la réforme de nos institutions. La question de la proportionnelle à 15%, c'est du gadget. Il faut aller plus loin. On ne va pas ouvrir tous les débats, mais nos institutions telles qu'elles fonctionnent depuis le quinquennat et depuis leur managérialisation par un président jupitérien, c'est une catastrophe.
Sylvie Goulard.
Non, si j'étais malicieuse, je dirais que la proportionnelle et le général de Gaulle, ça fait un peu un drôle de méli-mélo. Mais je voulais revenir sur un point qui me tient beaucoup plus à cœur, qui est celui de savoir si on règle les questions qui sont devant nous. Et moi, je suis sûre que, dans le fond, on peut peut-être... Je ne dis pas qu'il y a quelque chose de bon, c'est pas ça. Il y a eu de la violence, il y a eu des morts. Mais ce qui est important, c'est d'en sortir en n'oubliant personne. Moi, je ne crois pas qu'on puisse séparer les classes moyennes de ceux qui sont encore en dessous, pour une raison simple, c'est que l'aspiration, elle est l'aspiration à de la mobilité sociale. Ce qu'il faut, c'est réouvrir des passages entre les différentes couches de la société. Et dans ce qu'a dit Thierry, il y a quelque chose de très juste, c'est le besoin de dignité. Non, c'est le besoin de dignité. J'ai toujours été frappée par le fait que les gens réclament un travail qui leur permette effectivement de vivre par leurs propres moyens, mais aussi d'être entendus, de contribuer aux choix qui les concernent. Et d'ailleurs, ça évite de faire des bêtises. Quand on associe les publics qui sont destinataires, par exemple, d'allocations ou de mécanismes sociaux, on les conçoit infiniment mieux. Donc c'est ça que j'ai voulu dire. Je crois qu'il est important qu'on entraîne l'ensemble de la société vers le haut et qu'on encourage et qu'on ne recrée pas des frontières artificielles entre ceux qui ont un boulot, ceux qui sont un peu plus pauvres, parce que dans ces cas-là, on raterait l'objectif qui a été indiqué de refaire société.
François-Xavier Bellamy, je vous voyais réagir sur justement cette exigence de participation démocratique dont parlait Thierry Pêche à l'instant. Là encore, j'y reviens parce que je n'arrive pas bien à comprendre ce que vous en pensez les uns et les autres sur ce plateau. Que fallait-il faire ? Est-ce que le dispositif, ce grand débat annoncé est suffisant ? Est-ce qu'il fallait revenir aux urnes ? C'est amusant parce que ce qu'on a pu voir dans Paris hier, par exemple, chez les Gilets jaunes, il y avait cette grande banderole, il y en avait deux plus exactement, avec deux slogans, à la fois « RIC », pour appeler à ce référendum d'initiative citoyenne, et « Frexit ». C'était les deux mots d'ordre qu'on voyait hier dans les cortèges.
De fait, je réagissais à ce que disait Thierry Pêche, parce que c'est vrai que quand vous avez présenté ce grand débat, vous avez employé ce terme qu'on voit fleurir partout aujourd'hui, le mot de cahier de doléances. Et il est vrai que rien que ce terme en dit long sur l'état monarchique dans lequel notre pays est tombé.
Ouvrir c'est les maires qui l'ont utilisé en l'occurrence.
Alors c'est les maires, enfin au fond c'est tous les observateurs de la situation actuelle. C'est pas un reproche, hein, mais c'est un symptôme. Quand on dit que le débat consiste à ouvrir des cahiers de doléances, on dit au fond qu'on est précisément allé déjà très loin dans la perte de la qualité démocratique de notre vie collective. Parce que on adresse des cahiers de doléances à celui qui nous gouverne. Et quand on adresse des cahiers de doléances, c'est qu'on ne se sent pas gouvernant soi-même. Il faut revenir à une vie démocratique authentique, et c'est ce que dit le désir d'un référendum d'initiative citoyenne, qui me paraît être une idée intéressante, pourquoi pas, en tous les cas.
Vous rappelez en quelques mots ce que c'est à ceux qui
le référendum d'initiative citoyenne, c'est l'idée qu'à partir d'un certain nombre de signatures, peut-être 1 million par exemple, ou 2 millions de pétitionnaires, eh bien une question peut être soumise à la nation. Aujourd'hui, le référendum est un outil qui permet de consulter le peuple, mais c'est un outil qui n'est qu'à la disposition du chef de l'État, eh bien, il serait possible de permettre aussi au peuple lui-même de former ce référendum. Pourquoi pas ? Tout le sujet est dans les modalités, parce qu'il ne faudrait pas que ça devienne une occasion de paralysie institutionnelle perpétuelle, et surtout que ça entretienne l'idée d'une démocratie directe qui se passe de représentation, ce qui est évidemment impossible. Mais ce qui me paraît décisif, c'est que, dans nos manières même de concevoir la démocratie, nous puissions changer totalement de regard. Et évidemment, nous sommes d'accord sur l'intention, mais il ne s'agit pas seulement d'associer mieux les publics à la décision collective, il faut que la population, que les Français se sentent de nouveau les auteurs de la décision collective. Et non pas seulement qu'ils soient associés à cette décision.
Je ne parlais pas du référendum,
bien sûr.
Je parlais de la manière dont on conçoit des mesures concrètes à caractère social.
Mais
ne me
que...
faites pas dire ce
non,
que
non,
je
bien
t'ai
sûr,
pas dit.
C'est simplement une manière de concevoir les choses dans laquelle peut-être nous nous sommes collectivement enfermé pendant trop longtemps parce que les débats sont devenus très techniques et que, au fond, le macronisme, pour moi, voulait dire aussi ça. C'est-à-dire, la fin des clivages, c'était l'idée qu'à la fin, il s'agissait d'abord de faire de la bonne gestion et on allait laisser les gens qui savent faire et on allait s'en remettre à leur capacité d'administrer les choses. Eh bien, je crois que nous voyons que c'est une impasse, qu'on ne remplace pas le gouvernement des hommes par l'administration des choses et que le gouvernement des hommes suppose de rétablir la pluralité des visions qui s'expriment au sein de la vie démocratique. Et il faut revitaliser, comme le disait Thierry Pêche, les institutions démocratiques.
Vous pensiez, François-Xavier, vous pensiez à Marx ou à Saint-Simon ?
Là, c'est une formule de Saint-Simon, là.
Oui, mais reprise par Marx, en général, on l'attribue.
Mais plus concrètement, est-ce que cela signifie, selon vous, Daniel Cohen, qu'on doit aujourd'hui compléter cette démocratie représentative en France par un peu plus de démocratie directe ? C'est-à-dire quelques grands référendums par quinquennat, par exemple, sans dimension plébiscitaire, mais...
Pourquoi pas ? Ça serait certainement une bonne idée, mais en effet... On voit qu'il y a beaucoup de choses qui se manifestent ici, et on aura l'occasion peut-être dans la deuxième moitié de parler de ce qui se passe de si extraordinaire en Europe, parce que pardon de le dire, j'ai l'impression que c'est l'ensemble de l'Europe qui est un champ de ruines, et la France de ce point de vue-là n'y échappe pas, donc il y a une vraie discussion en profondeur sur l'état de l'Europe aussi. Mais dans le cas spécifiquement français, il est parfaitement évident, je crois, et chacun ici le dit à sa manière, que la Ve République est usée à la corde, parce qu'il n'y a aucun système politique au monde qui donne tout le pouvoir pendant 5 ans à quelqu'un. Le pouvoir...
Thierry Pêche disait un peu l'inverse. Il disait qu'au contraire, il fallait se remettre pleinement dans la Ve République.
Mais ça me permettra d'avoir un petit point de désaccord avec Thierry.
Majeur, pas petit.
Le gaullisme disait, les gaullistes disaient, entre les communistes et nous, il n'y a rien, donc laissez-nous gouverner. C'est dans ce rien qu'avait surgi mai 68. Entre les extrémistes et nous, il n'y a rien, disait implicitement Emmanuel Macron. Et c'est dans ce rien qu'ont surgi les gilets jaunes. La vie politique a besoin d'exprimer les tensions contradictoires qui traversent la société.
Quelque chose comme de spécifiquement français, c'est que dans ce pays-là, on attend toujours quelque chose de l'État.
Mais peut-être,
Régime dans le point cette semaine.
Oui, bien sûr, la France, le roi, l'État, machin. Mais spécifiquement, on a un régime qui donne tout à quelqu'un. Alors, jusqu'à présent, ce tout à quelqu'un était un peu euphémisé par le fait que ce quelqu'un faisait plus ou moins partie de l'histoire de France. C'est un ancien Premier ministre, c'est un ancien opposant comme Mitterrand, c'est un tout ce qu'on voudra. Donc il faisait partie de la famille politique, il venait pas tout à fait seul, il venait avec une histoire. Bon, là, bon, et c'est son génie, tel Bonaparte, Macron prend tout le pouvoir pour lui, il vient de nulle part, et on voit à ce moment-là quelqu'un user de ses pouvoirs discrétionnaires d'une manière qui a frisé la provocation parfois, pas seulement par ces petites phrases, mais qui ont, je crois, beaucoup contribué à énerver les gens parce que on voyait ce bonhomme se permettre de les juger, mais aussi par la politique économique. On peut y revenir là un instant. C'est-à-dire, hop, je taxe les retraités, mais ça suffit pas, je vais les retaxer. Tiens, on va taxer le diesel. Ah, ça suffit pas, je vais rajouter une couche. Il y avait quelque chose qui allait au-delà du programme sur lequel il a été élu. Bon, on peut dire. Il a été élu pour faire quelque chose que les Français ont approuvé. Mais là, il y avait dans ces tics à répétition, je reprends l'exemple des retraités, on met la CSG, très bien, mais on en rajoute une couche pour désindexer l'année d'après. Donc ça veut dire qu'il y a des catégories entières de la population qui ont eu le sentiment qu'elles dépendaient du bon vouloir de quelqu'un avec zéro contre-pouvoir pour dire « Mais attends, là tu vas trop loin, tu sors. » Bon, donc il y a un besoin de réfléchir à cette Ve République. Donc là, on le refera, hein, bien entendu, parce que c'est tout un sujet, mais... Il me semble que si on était resté sur l'inversion des mandats, que Jospin a eu le malheur de vouloir recorriger, c'est-à-dire on nomme d'abord un parlement avec un chef de parti qui vient avec un programme qui a été dans l'opposition. Le modèle anglais est souvent donné en modèle, en exemple d'une situation où il y a beaucoup de pouvoir donné au Premier ministre, puisque au fond, les institutions sont faites pour lui donner une majorité absolue et de gouverner. Mais c'est très différent, parce que en face, il y a une opposition structurée. Pendant 5 ans, le chef de l'opposition, sur tous les sujets, doit donner son avis, et c'est lui qu'on connaît qui va prendre
en ce
le
moment,
pouvoir.
Elle est pas
ensuite.
Très structurée quand même. Hein.
Oui, bon, mais Corbyn,
pas... on est passé de la majorité plurielle parce que à l'opposition plurielle.
Parce que l'Europe est soumise à une crise. On va pas avoir le temps de le dire.
Mais on va parler
général.
De la Grande-Bretagne.
Mais quand même, Corbyn est obligé d'énoncer tous les éléments de son programme, alors que dans un système français, il serait venu en parachute à la faveur d'une crise institutionnelle avec deux ou trois copains avec lesquels il aurait bricolé quelque chose et on aurait été dans l'arbitraire. Donc même Corbyn, d'une certaine manière, est en train, même parce qu'il vient de l'extrême du champ politique britannique, est obligé, non pas de se polisser, mais de répondre à tous les points que pose l'exercice de la gouvernementalité, ce que nos hommes politiques, quand ils viennent à la tête de la Ve République, n'ont en général jamais fait, puisque c'est sur leur gueule que ça se joue, quelques idées générales, et dans le détail, on le découvre après.
Alors,
c'est
on entend l'impatience de Daniel Cohen de partir pour la Grande-Bretagne, ce sera en effet dans quelques secondes. Conclusion sur cette première partie, Thierry Pêche, sur la spécificité de cette crise française et de ce modèle français.
Sur la cinquième, qu'on se comprenne bien. D'abord, à Sylvie, un mot. De Gaulle n'a jamais souhaité que les modes de scrutin soient précisés dans la Constitution. Et sous la cinquième, on a eu de la proportionnelle, vous en souvenez très bien, en 86. Donc rien n'interdit
c'était
ça.
C'était pas De Gaulle en 86, quand même.
Non, mais vous parliez... D'accord, on est des grands, on est des adultes, on s'est compris. Hein. Donc, il n'y a aucun antagonisme entre la Ve République et le mode de scrutin. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est laissé à l'initiative de la loi et du législateur et que c'est pas gravé dans le marbre de la Constitution. Donc ça, c'est pas un débat. En revanche, il y a un débat sur la Ve. Moi, quand je disais retour à la Ve, je veux dire retour à la dissociation du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. C'est ça, en fait, la discussion. Et sous la cinquième, avant le quinquennat, c'était possible. On a eu des cohabitations. Elles n'ont pas toutes été des tragédies, pas du tout. On a vécu avec des formes de cohabitation, voire de coalition parlementaire.
Bon. Donc la solution préconisée par Thierry Pêche ce dimanche, c'est cela, c'est une dissolution qui permet de retourner aux unes pour une cohabitation.
Non, Émilie, c'est trop simple. Vous courez aux conclusions. Ce que je dis et ce que je partage avec Daniel, c'est pour effacer un peu le point de désaccord qui, à mon avis, est un peu artificiel. Il est effacé. Daniel est ravi. Bon, non, mais c'est que ce qui ne va pas, c'est ce qu'elle est devenue. C'est pas ce qu'elle était dans son essence, c'est ce qu'elle est devenue depuis le quinquennat, et en plus dans les mains de gens, et c'est mon deuxième point, qui sont devenus des saint-simoniens bureaucratiques ou technocratiques. La fameuse formule de Saint-Simon, remplacer le gouvernement des hommes par l'administration des choses, c'est le programme d'anéantissement de la politique.
Pour conclure sur cette Ve République.
Les libéraux, les saint-simoniens et les marxistes partageaient ça. Mettre fin à la politique pour qu'un monde gouverné par la raison puisse voir le jour. Eh bien, ça ne marche pas.
Pour conclure sur cette Ve République, on a beaucoup dit, certains ont beaucoup dit aussi ces dernières semaines, que sans la Ve République, la situation très chaotique que nous avons connue aurait pu être encore plus grave. François-Xavier Bellamy.
Bien sûr, mais il faudrait surtout pas croire, et on peut tenir à la solidité des institutions, parce qu'elle est ce qui nous préserve de la guerre civile et de la confrontation directe, évidemment. Mais il faut surtout pas croire qu'on puisse se féliciter seulement de la solidité des institutions, comme si elles nous évitaient maintenant de nous poser les questions de fond. Parce que toutes solides qu'elles sont, les institutions ne tiennent pas indéfiniment lorsqu'elles ne parviennent pas à être le lieu dans lequel s'exprime ce pluralisme dont parlait Daniel Cohen. Et si ça n'est pas le cas, si ça ne se joue pas dans le champ institutionnel, alors un jour ou l'autre, cette colère débordera le champ institutionnel, et là, on sait que toute Ve République qu'elle soit, elle ne peut pas résister à cela. Et donc le sujet majeur, c'est de réussir à faire en sorte que s'exprime de nouveau à l'intérieur de nos institutions cette nécessaire pluralité, ce pluralisme indispensable à toute vie politique. Et on est, je crois, tous d'accord ici pour dire que la catastrophe, c'est d'avoir cru à la fin de la politique. Peut-être la question européenne dont on va parler dans un instant est-elle aussi un signe de cette croyance illusoire.
Merci pour cette transition, François-Xavier Bellamy. Et d'ailleurs, une question pour passer mieux à cette seconde partie. Vaut-il mieux être Emmanuel Macron ou Theresa May par les temps qui courent? Il paraît que certains Anglais regardent avec une certaine forme de satisfaction le mouvement des Gilets jaunes déchirer la société française au même titre que la leur reste fracturée par le Brexit. Le Brexit et ses énièmes rebondissements cette semaine qui donnent toujours un peu plus de crédit à ceux qui pensent qu'il faudrait sans doute envisager la solution de l'ardoise magique Union européenne-Angleterre. Si tu reviens, j'annule tout.
France Culture, l'esprit public, Émilie Aubry.
Lundi dernier, tandis qu'en France nous attendions le grand discours présidentiel, nous étions sans doute passés à côté d'un événement majeur. La Cour européenne de justice avait rendu une décision qui allait peut-être changer la face du Brexit. Elle disait en substance:
tout pays qui a déclenché l'article 50, celui qui permet de quitter l'Union européenne, peut retirer sa demande à tout moment, unilatéralement, c'est-à-dire sans demander la permission aux autres États membres, à condition bien sûr d'accepter de revenir dans les mêmes termes qu'auparavant. En attendant, on avait vu cette semaine Theresa May remporter une énième épreuve de salto arrière compliqué. Lundi, la dirigeante conservatrice reportait en catastrophe le vote sur l'accord de Brexit prévu le lendemain à la Chambre des communes, de peur de le perdre. Son parti, en majorité hostile au texte négocié avec l'Union, avait alors aussitôt organisé un vote de défiance pour le mercredi. Theresa May obtenant pour finir le soutien de 200 députés conservateurs contre 117. Theresa May semblait donc débarrassée d'au moins une épée de Damoclès, puisque, selon les statuts de son parti, nul ne pourrait plus chercher à la déloger avant un an. Une autre épée, elle, restait bien en suspens, la menace d'une motion de censure, cette fois de l'opposition. En attendant, le Brexit continuait d'être le cauchemar des Britanniques avec sa kyrielle de questions insolubles, Brexit or not Brexit, sorti avec accord ou sorti sans accord. Pour cet accord, à quelles concessions étaient prêts les partis britanniques d'un côté, les Européens de l'autre? Alors pour le dénouement, on hésitait entre le titre d'une comédie de Shakespeare, Tout est bien qui finit bien, ou celui d'un vieux James Bond de 1997, Demain ne meurt jamais, le cauchemar du Brexit éternellement recommencé.
Bonsoir, chers collègues, mesdames et messieurs. Le résultat du vote de ce soir est le suivant. Le parti parlementaire a bien confiance en Theresa May.
Cela a été une journée longue et cruciale, mais à la fin de cette journée, je suis heureuse d'avoir reçu le soutien de mes collègues dans le vote de ce soir. Même si je suis reconnaissante pour ce soutien, j'ai conscience qu'un nombre significatif de collègues ont voté contre moi. Et j'ai écouté ce qu'ils avaient à dire. Suite à ce vote, nous devons maintenant avancer dans notre mission consistant à délivrer le Brexit au peuple britannique, afin de construire un futur meilleur pour ce pays. Un Brexit qui met en application le vote du peuple britannique, qui nous rende le contrôle de notre monnaie, de nos frontières et de nos lois, qui protège les emplois, la sécurité et l'Union, qui rassemble à nouveau le pays, plutôt que de creuser la division.
Alors c'est vrai que beaucoup de gens en France ne comprennent plus grand-chose à cette saga Brexit. Sylvie Goulard, vous qui avez consacré de nombreux ouvrages à ces enjeux européens, expliquez-nous un peu, que disait cet accord que Theresa May a finalement préféré ne pas soumettre au vote du Parlement? Pourquoi ensuite ce vote de confiance? Et aujourd'hui, quelles sont les forces en présence?
Bon, je crois que tout le monde doit être extrêmement modeste sur cette question. Je ne détiens pas la vérité, je peux essayer d'expliquer un certain nombre de choses, mais personne ne sait ce qui va se passer finalement. Et d'ailleurs, c'est la vie démocratique, donc il n'y a pas à porter de jugement là-dessus. Donc, en juin 2016, le peuple britannique a voté à peu près à 52% pour sortir de l'Union européenne. L'une des difficultés, je crois qu'on peut le dire en ces termes-là, c'est que probablement les gens n'ont pas tous été parfaitement éclairés sur certaines des conséquences de leur choix. On peut souhaiter quitter l'Union européenne, d'ailleurs le traité le prévoit, c'est ce fameux article 50. Simplement, ce traité a été rajouté il y a une dizaine d'années dans l'ordre juridique européen, sur un système qui n'était pas fait pour être défait, je crois que c'est important de le rappeler, et qui avait pour objectif de créer le plus de liens possible entre les pays et les peuples qui y participent. Donc on se retrouve avec une équation qui est difficile à résoudre. L'Union européenne et le Royaume-Uni ont signé un accord qui a été négocié par la Commission européenne sous la responsabilité de Michel Barnier, avec un mandat de tous les gouvernements du continent et d'Irlande. Cet accord est un accord qui permet d'abord d'éviter que le 29 mars au soir, date à laquelle entrerait en vigueur la sortie du Royaume-Uni de l'Union, les choses s'arrêtent du jour au lendemain. Donc le statut des Britanniques vivant sur le continent, le statut des ressortissants européens vivant à Londres, les trafics de marchandises, les services financiers, le trafic aérien, la fourniture de matériaux nucléaires dans les hôpitaux britanniques. Enfin, vous avez toute une liste, un petit peu un inventaire à la Prévert, de choses extrêmement graves ou plus mineures qui, du jour au lendemain, s'arrêteraient. Donc l'objectif, c'est d'abord d'éviter que ça s'arrête d'un coup. La deuxième chose, c'est de voir comment on règle la question très délicate de l'Irlande, qui est une île coupée en deux, entre la République d'Irlande au sud et l'Ulster qui appartient au Royaume-Uni au nord, et dans laquelle il y a eu un terrorisme extrêmement meurtrier qui a fait plusieurs milliers de morts, et où depuis 1998 règne une paix qui est essentiellement adossée à l'Union européenne, à la Convention européenne des droits de l'homme. Donc la solution qui a été trouvée, c'est de dire, voilà, une fois que l'accord de retrait entre en vigueur, il y a une période de transition, et dans cette période de transition, on essaye de voir comment on bâtit une relation future. Et cette relation future, si elle devait aboutir, enfin si elle ne devait pas aboutir du tout, ou si elle créait une frontière physique entre les deux parties de l'île irlandaise, à ce moment-là, il y aurait pour l'Irlande une sorte de filet de sécurité consistant à être dans une situation un peu différente du reste du Royaume-Uni. Voilà, je dis ça de manière très grossière, mais c'est l'un des enjeux les plus importants en termes, honnêtement, de paix civile. Il y en a bien d'autres, économiques. Je peux revenir sur les aspects de stabilité financière que nous avons regardés de près à la Banque de France. Ce qui est très triste, c'est que les Britanniques entre eux n'arrivent pas à faire un choix permettant d'éviter, en tout cas, une situation de rupture qui n'est pas forcément celle que les électeurs avaient en tête. On leur a dit non seulement que les choses se passeraient bien, mais on leur a même fait croire que la sortie de l'Union rapporterait de l'argent pour le service de santé, par exemple. On a pu laisser entendre que le Royaume-Uni disposerait de plus de droits de négociation, par exemple d'accords commerciaux, alors que ça sera probablement au moins pendant un certain temps un recul. Voilà. Donc encore une fois, je crois que c'est très important d'insister sur le fait que les peuples sont libres de quitter l'Union européenne. Mais bien évidemment, c'est un petit peu la différence qu'il peut y avoir entre un divorce et une répudiation. Soit on fixe les modalités, soit les choses s'arrêtent du jour au lendemain avec beaucoup de souffrance. La Banque d'Angleterre a élaboré des scénarios laissant entendre que... Alors c'est très difficile, hein, je ne sais pas s'il faut les reprendre complètement, mais que ça pourrait être une récession plus grave que la crise financière de 2008. Donc il ne faut pas faire peur aux gens, mais je crois qu'il faut les placer quand même devant les conséquences de certaines décisions de déconstruction économique. Et juste un dernier mot, beaucoup de gens pensent que dans nos sociétés, on exporte ou on importe simplement des biens, comme une bouteille de vin qui part du château où on l'a produite vers l'étranger. Non, vous avez énormément maintenant de flux qui sont des flux de pièces détachées qui sont assemblées dans un autre pays. Donc à la clé, il y a quand même énormément d'emplois et il y a le statut aussi tout simplement de beaucoup de familles qui vivent d'un côté ou de l'autre de la Manche.
François-Xavier Bellamy, j'écoute l'exposé très clair de Sylvie Goulard. Je me dis qu'en fait, on est en train de faire l'expérience qu'une fois dans l'Europe, on ne peut pas en sortir.
En tous les cas, c'est peut-être ce que le message que l'Union européenne essaye de faire passer aussi à travers une manière d'abord très dure de répondre au Brexit. La volonté a été de ne pas du tout faciliter la vie du Royaume-Uni et je pense que c'est pour une part ce qui provoque la difficulté actuelle dans laquelle se trouvent les Britanniques. Évidemment que, de fait, le Brexit ne pouvait qu'être très compliqué à construire, parce qu'il s'agit justement, comme le rappelait Sylvie Goulard, de défaire des liens qui n'ont pas été pensés pour être défaits. Mais c'est ajouté aussi à cela la volonté assez explicite, et on l'a vu encore très récemment dans le comportement assez dur de Jean-Claude Juncker à l'égard de Theresa May, la volonté assez explicite de dire, d'envoyer un message à tous les autres pays d'Europe en leur disant « si jamais vous êtes tenté de faire le même choix, sachez qu'aucun cadeau ne vous sera fait ». Et que vous partirez forcément
de
dans
fait,
la douleur.
Aujourd'hui, c'est vrai qu'en Europe, personne ne manifeste plus son intention de sortir.
Personnellement, sincèrement, je ne crois pas que ce soit ce qui s'est passé. Une des choses qu'on ne dit pas assez, c'est qu'en fait, il y avait un système construit, d'accord, avec des libertés. Tous les pays qui sont dans l'Union européenne ont négocié d'y être, ont ratifié les traités dans les parlements ou parfois par référendum. Il y a eu beaucoup de référendums pour les adhésions. Et ce qui a fait la force des 27 dans cette négociation, c'est pas la volonté de punir qui que ce soit, c'est la volonté de préserver ce qui existe. Et je crois qu'il est parfaitement légitime, et de temps en temps nous devrions quand même aussi avoir le droit, si j'ose dire, de faire passer l'intérêt des Européens de l'Union à 27 avant le fait de faciliter. Moi je souhaite défendre les emplois en France, le marché intérieur sans qu'on l'effiloche ou qu'on le détricote, l'existence de la Cour de justice, dont d'ailleurs on voit en ce moment que ce sont les Britanniques qui sont en train de bénéficier de la manière dont elle peut dire le droit pour l'ensemble des Européens, puisqu'ils y sont encore. Donc il y a peut-être eu de manière minoritaire chez certains des pensées mauvaises, mais honnêtement, si vous discutez avec les négociateurs, avec l'équipe de Michel Barnier, si vous regardez ce que Michel Barnier a dit, il n'y avait pas de volonté de punir les Britanniques. Il y avait par contre, ce qui est parfaitement légitime, et on dit souvent que l'Europe est naïve dans la défense de ses intérêts, la volonté de ne pas porter atteinte à ce que nous avons mis 70 ans à construire.
Alors, Daniel Cohen, qui est un brillant économiste, mais qui sait aussi très bien faire le politologue, vous aviez tout à l'heure commencé à nous parler de Jeremy Corbyn. Aujourd'hui, c'est parti politique fracturé fracturée dont on a parlé tout à l'heure en France, cette fracture, elle existe aussi en Grande-Bretagne. Rapide état des lieux.
Alors, pardon, juste, je voudrais terminer ce premier point de la discussion. Désolé, mais ça n'est pas là-dessus que la complexité est apparue. Ça n'est pas l'avenir des relations commerciales. Comme chacun sait, les divorces sont difficiles quand on a des enfants en commun. L'Europe et le Royaume-Uni ont découvert, un peu par hasard, qu'ils avaient un enfant adultérin qui s'appelle l'Irlande. C'est l'Irlande qui crée tous les problèmes. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, sans s'en rendre compte, peut-être, lorsque les accords de paix ont été signés entre l'Irlande du Nord, l'Ulster, le Royaume-Uni et l'Irlande tout court, en réalité, on a accordé un statut dérogatoire à l'Ulster. C'est comme
mais
ça.
Il n'y avait pas dérogatoire
par rapport à Schengen, dérogatoire par rapport à la libre circulation, dérogatoire par rapport à l'idée que quoi qu'il advienne, l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud resteraient un même territoire dans lequel on pourrait circuler librement. Toute la difficulté depuis l'accord de Chequers jusqu'à aujourd'hui ne porte en réalité, et c'est là-dessus que Madame May demande encore des concessions, ne porte que sur une seule chose, trouver une solution à un problème qui n'en a pas. Il faut quand même être clair. L'accord qui a été signé, c'est un accord qui reconnaît qu'il n'y a pas de solution à ce problème, puisque ce qui a été décidé, c'est que fin 2020, si on ne trouve pas de solution, alors l'Irlande du Nord restera dans le marché unique avec la libre circulation des personnes, et que le Royaume-Uni, tant qu'il n'y aura pas de solution, restera dans l'union douanière, parce qu'il n'y a pas d'autre solution à ce problème. Tant que le Royaume-Uni n'acceptera pas, on avait déjà parlé, l'idée que... Il faudra, s'ils veulent retrouver leur liberté, et c'est tout à fait possible, à tous les égards possibles, il faudra une frontière intérieure entre l'Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni. Cette question, on l'avait comparée à l'Alsace et la Lorraine en son temps, n'aura d'autre solution que soit le Royaume-Uni reste dans l'union douanière et accepte la libre circulation des personnes pour l'Irlande, soit ce que propose Barnier depuis le départ, une frontière intérieure, en expliquant que ça n'est pas très gênant. Je suis d'accord avec lui là-dessus. Ça n'est pas si gênant que ça que les marchandises puissent circuler, etc. Donc, il faut accepter l'idée que les Britanniques, quand ils ont voté le Brexit, n'ont pas compris qu'ils étaient en train de créer un système partagé avec, pour ce qui concerne l'Irlande, avec le reste de l'Europe, puisque l'Europe veut rester. Maintenant, la deuxième partie, vous avez tout à fait raison, c'est que tout ça ravive toutes les tensions internes au Royaume-Uni qui se sont manifestées à l'occasion de ce vote. Il y avait une statistique très intéressante qui est que chaque jour meurent 1500 personnes qui ont voté pour rester, pour sortir de l'Union européenne, et naissent, c'est-à-dire arrivent à l'âge de la majorité de vote, 2000 personnes qui voudraient rester.
Alors, ça a été le grand argument du député travailliste Paul Farrelly.
Et que le 19 janvier, statistiquement, parce que les jeunes seront plus nombreux et les vieux qui ont voté contre seront moins nombreux, si on devait revoter, tout serait changé. Et ça aussi, sur le fond de cette crise irlandaise, c'est déjà dans Shakespeare la crise irlandaise. Ça fait longtemps que ça dure, c'est un élément constitutif de cette tension qui traverse le royaume, entre guillemets, uni, parce qu'il y a les questions écossaises qui est derrière, etc. C'est tout ça qui revient à la figure des Britanniques, et c'est pour ça que c'est compliqué. Mais en interne, cette question du Brexit n'est pas réglée, parce que la dynamique va dans le sens inverse. C'est pour ça que c'est une telle catastrophe. Mais le problème technique de base, celui qui revient tout le temps, c'est celui de la frontière irlandaise.
Pour revenir sur le référendum, parce qu'il nous reste que quelques minutes, et je voudrais entendre également Thierry Pech sur
Je voudrais simplement dire, je vois bien le sens de la formule, mais pour les Irlandais qui nous écouteraient, je crois qu'il ne faut pas... Il est extrêmement important de ne pas considérer que l'Irlande est une sorte d'enfant adultérin, pour reprendre votre formule, des relations avec le Royaume-Uni. L'Irlande est un État membre de l'Union européenne. Et l'une des raisons aussi de l'Union... mais je veux dire, il faut bien avoir conscience, parfois on ne l'a pas suffisamment, que chacun des États est égal en dignité avec les autres, et qu'on essaye de trouver une solution qui touche à la guerre et la paix est une chose extrêmement importante. Et ça n'est pas seulement un problème technique. Quand on discute avec des Irlandais...
Avec l'Irlande, c'est sûr que non.
Non, non, c'est un problème
qui est technique, c'est le reste des relations commerciales.
Éminemment politique. Et pour avoir fait un débat avec Mme Theresa Villiers, qui était dans le gouvernement de David Cameron, la ministre en charge de l'Irlande, mais vous allez voir pourquoi c'est quand même assez étonnant, en mai 2016, je peux vous dire qu'elle était partisane du Brexit, elle n'avait aucune réponse. Et c'est là qu'il faut quand même cesser d'abuser les gens dans un vote. Si on va à un vote en disant voilà quelle est la solution, elle est bonne, elle est mauvaise, mais elle existe, c'est une chose assez différente. Et là, je suis d'accord avec vous, Daniel Cohen. En fait, ce qui a été promis, on ne peut pas le délivrer. Parce qu'on a menti sur la facilité à...
Sur l'Irlande, mais c'est ce point aussi. Oui, mais les autres points...
Sur les accords commerciaux aussi.
Oui, mais tous les autres peuvent faire l'objet de solutions.
Non, pas l'Irlande.
C'est pour ça que c'est si difficile. Il ne faut pas laisser entendre qu'on ne peut pas sortir de l'Europe. C'est pas vrai.
C'est pas ce que j'ai dit.
Non, ce n'est absolument pas ce que j'ai dit. Non, mais je dis plus généralement. Ce qui est difficile, spécifiquement, ce n'est pas les traités commerciaux, etc. Parce que ça, il y a des solutions, même s'il faut un peu plus de temps que prévu. C'est l'Irlande.
Dépassons cette question irlandaise. Dernière question pour vous, Thierry Pech. C'est vrai qu'on a le sentiment, en tout cas, vu de France, que l'hypothèse d'un nouveau référendum reste quelque chose de possible. Ce matin, le ministre de l'Éducation britannique ferme complètement toute possibilité de recours à ce référendum-là. Il est dans son rôle, il fait partie de ce gouvernement. Est-ce qu'aujourd'hui, en effet, parce qu'il y a notamment ces nouvelles générations qui vont accéder à la majorité d'ici 2020 et ça représente des millions de personnes, est-ce qu'en effet, c'est une hypothèse crédible ?
Moi, je crois, je l'ai toujours dit. Je vais vous dire, je me souviens d'un débat à ce même micro il y a un peu plus d'un an sur ces questions, sur le Brexit. Déjà, les proches de Blair évoquaient cette possibilité en disant c'est trop tôt, mais ça sera peut-être la porte de sortie. Le problème n'a pas de solution. Tel qu'il est posé, il n'en a pas. Les solutions qui vont s'imposer, elles peuvent être doubles. Soit le désordre et la violence, parce que ce sera le royaume désuni demain matin si on continue comme ça, sur l'Irlande, sur l'Écosse, voilà. Soit on revient devant le peuple et on dit, mais on pose une question plus précise. La première était absurde, puisque on disait, si c'est non, on verra. Non, il faut dire, si c'est non, c'est quoi ? C'est quoi les options ? Et c'est là qu'il y a eu mensonge, un gros mensonge par omission. Donc là, on pourrait dire, est-ce que ce deal vous convient ? S'il ne vous convient pas, ce sera no deal, et à ce moment-là, ça va être très compliqué. Et s'il vous convient, très bien, prenez-le, et le match est terminé. Bon, et on restera dans le backstop, le filet de sécurité, X années, X décennies, on verra bien. Bon, donc... Le deuxième référendum, pour moi, n'est pas du tout un truc virtuel. Tout le monde, tous les acteurs ont intérêt à dire que pour le moment, c'est pas une option. Mais enfin, de fait, si on n'en trouve pas d'autres, ce sera ça. Je voudrais quand même insister sur une chose, c'est que de l'extérieur de l'Europe, il y a deux grands acteurs qui souhaitent notre division, qui sont les États-Unis et la Russie, pour d'autres raisons, si vous voulez. Et pour filer la métaphore des titres de James Bond, j'ai peur que tout ça finisse par bon baiser de Russie. Parce que, à la fin, si vous voulez, il y a quand même deux géants pour des raisons différentes, la Russie étant un petit géant, un géant militaire, un géant géopolitique pur, qui ont intérêt à ce que l'Europe se balkanise, à tous les sens du terme d'ailleurs, et ont intérêt à souffler sur les braises. Donc, regardons-nous de l'extérieur, on prendra mieux conscience de ce que c'est que l'intérêt général européen.
Merci beaucoup Thierry Pech. En guise de conclusion, est-ce que vous avez des ouvrages à nous recommander, François-Xavier Lamy, cette semaine, soit sur le premier thème, faire nation, faire société, ou sur cette question européenne du Brexit ?
J'allais recommander, mais on en a déjà beaucoup parlé, ce reportage extraordinaire de Florence Aubenas dans Le Monde, qui effectivement, je crois, mérite vraiment d'être lu pour aller au fond de la question des tensions qui traversent notre propre société.
Daniel Cohen, on relie tout Renan et tout Habermas.
Oui, il y a un livre qui est sorti, vous en avez sûrement parlé à un moment ou l'autre, de Pinker sur les lumières. Il faut le relire en creux, parce que je pense qu'il se trompe profondément sur le diagnostic, et en même temps, en regardant l'écart entre ce qu'il annonce et ce qu'on vit, je crois qu'il y a vraiment des leçons à entendre.
Sylvie Goulard.
Non, il y a un excellent rapport, très lisible. Non, mais vraiment très lisible et très intéressant. Non, mais je rebondis sur ce que vient de dire Thierry, qui est extrêmement important. Est-ce que nos débats référendaires ou politiques se déroulent sans interférence extérieure sur les réseaux sociaux, sans désinformation menée par des puissances extérieures, ou est-ce que nous sommes victimes d'attaques ? Donc c'est un rapport conjoint du Centre de prospective des affaires étrangères et du ministère des Armées, indépendant des ministres, et qui est excellent
rapport,
car il permet de mesurer à quel point, notamment l'un des deux pays que Thierry a indiqué, se mêle de nos affaires, ce qui est très très éloigné de la conception de la souveraineté nationale qu'on peut souhaiter avoir.
Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir été nos visiteurs du dimanche. Merci à Marine Beccarelli qui a préparé avec moi cette émission, à Vincent Deck qui l'a réalisée, à la technique aujourd'hui, Alice Cégède. À suivre 12h45, Signe des temps, Marc Weisman reçoit Marcel Gaucher notamment, et tout de suite, Les bonnes choses de Caroline Brouet. Bon dimanche, à la semaine prochaine.